Des préparatifs attendus. C'est le titre du message pour aujourd'hui. Je voudrais vous lire l'évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 1 à 16. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. » et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette femme, où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, allant vers les principaux sacrificateurs, et dit « Que voulez-vous me donner ? Et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Vous est-il déjà arrivé de préparer un rendez-vous et d'oublier de vous y rendre? Personnellement, ça m'est déjà arrivé d'oublier un rendez-vous. Et j'en suis pas si fier que ça. Les événements se précipitent, comme vous pouvez le constater dans les quelques versets que nous venons de lire. Maintenant, le point devient culminant. Jésus, le roi, se prépare à souffrir et à mourir sur la croix. Cette préparation comprend 3 étapes différentes qui a lieu dans 3 endroits différents. En examinant ces 3 étapes et ces 3 endroits, nous voyons le conflit croissant entre Jésus-Christ et ses ennemis. Première étape et premier endroit, le complot pour tuer Jésus, dans les versets 1 à 5. Jésus avait un rendez-vous. Pour la 4e fois et la dernière, dans cet évangile, Jésus annonce d'avance à ses disciples qu'il devait mourir. Sa prédication laisse entendre qu'il s'écroulera peut-être un temps entre la Pâque juive et sa crucifixion. Le verset 2 nous indique cela. « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Cette année-là, la Pâque revêtirait une véritable signification. L'agneau pascal était venu et allait être crucifié. Dans la première étape et le premier endroit, nous voyons clairement le complot des ennemis de Jésus dans une cour, dans la cour du souverain sacrificateur de l'époque, Caïphe. Tandis que Jésus prononçait ces paroles, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se rassemblaient dans une cour pour mettre leur stratégie au point. Ils veulent arrêter Jésus discrètement et le faire mettre à mort sans tarder. Mais ils ne pensent pas que c'est prudent de le faire pendant la fête de la Pâque, car ils craignaient la réaction violente du peuple. Ces versets révèlent toute la laideur d'un peuple qui devait appartenir à Dieu, mais qui était devenu son ennemi. Il démontre aussi comment Dieu, dans sa grande sagesse, est capable de tourner les actes méchants des hommes pour leur grand bien à tous, changeant les circonstances selon un plan arrêté depuis toute éternité. Nulle part ailleurs, on ne voit avec autant de clarté la main de l'homme impie accomplir néanmoins la volonté de Dieu. Deux déclarations dans le livre des Actes des Apôtres soulignent cette vérité qui dépasse largement notre compréhension. Première déclaration, elle se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 23. Quand Pierre prêche le jour de la Pentecôte, voici ce qu'il dit dans le verset 23. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. En deux mots, en résumé, Pierre dit, vous avez mis en croix votre Messie. Deuxième déclaration, ça se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, là aussi, chapitre 4, verset 27. C'est l'Église qui est réunie auprès de Pierre et de Jean, qui dirent tous ensemble à un moment donné, voici la lecture du verset 27, « En effet, contre ton saint serviteur, Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate, se sont liés dans cette ville pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » En deux mots, les gens disent, vous avez mis en croix votre Sauveur. Dieu contrôle toutes choses. Il est à la barre. Nous n'avons pas à douter de cela. Les chrétiens comme moi-même, nous avons l'habitude de citer Romains chapitre 8, verset 28. Je voudrais conclure cette première partie, cette première étape, ce premier endroit, par un vieux cantique trouvé dans un livre dans ma bibliothèque de 1869. Et voici ce qu'il dit sur la préscience de Dieu. À mon Dieu j'abandonne, à jamais ma personne, mes projets et mes vœux. Sans lui rien ne prospère. Sans mon céleste Père, rien ne saurait me rendre heureux. Oui, de sa providence, avec reconnaissance, je veux tout accepter. Ce qu'il lui plaît de faire m'est toujours salutaire. Cesse mon cœur de t'agiter. Je reçois avec joie tout ce que Dieu m'envoie. Et dans l'adversité, quand sa main me châtie, d'un Dieu qui m'humilie, je respecte la volonté. J'attends tout de sa grâce, constamment efficace, pour qui regarde à lui. Et quand le mal me presse, il connaît ma détresse et se déclare mon appui. Oui, mon âme est tranquille, Dieu seul est mon asile. Il m'a pris par la main. Je sais que cette vie pour moi sera suivie d'un parfum repos dans son sein. Alors, aujourd'hui, je ne vous ai pas cité Romains chapitre 8, verset 28, mais j'ai préféré vous citer ce magnifique cantique qui a été écrit dans les années au 18e siècle. Dieu est au contrôle de votre vie. Deuxième étape, deuxième endroit, à Béthanie. L'onction de Jésus à Béthanie, les versets 6 à 13. Tout d'abord, dans ce passage, nous révèle plusieurs choses. Tout d'abord, un endroit. Comme Jésus était à Béthanie, une femme s'approcha de lui. Verset 6. Béthanie était un petit village pas très loin de Jérusalem. Matthieu ne donne pas le jour précis de cette onction, mais selon Jean, elle eut lieu 6 jours avant la Pâque. Jean chapitre 12, verset 1 nous le précise. Matthieu place ici dans son récit pour expliquer en partie la trahison de Judas. Le récit de Jean ajoute plusieurs détails à cet incident. Par lui, nous connaissons le nom de cette femme, Marie, la sœur de Lazare et de Marthe. Jean chapitre 12, verset 3 nous le précise. Il y a dans ce passage une autre chose étonnante, une indignation. Verset 8. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte ?» Pour les apôtres de souche assez modeste, l'acte de Marie était un formidable gaspillage d'argent. Le parfum avait, selon Judas, une valeur de 300 deniers, l'équivalent d'un salaire d'une année pour un ouvrier. Jean, chapitre 12, verset 5, nous le dit. Matthieu, se souvenant peut-être de la part qu'il a prise dans les critiques, implique tous les apôtres. Jean identifie précisément l'indignateur, Judas, et révèle aussi ce mobile. Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jean, chapitre 12, verset 6, nous le précise. Ainsi donc, sous la prétexte d'une bonne cause, les disciples étaient-ils emmenés à participer au péché d'un adversaire du Seigneur et de s'opposer à un acte qui l'honorait véritablement. Troisième chose dans ce passage qui est très intéressant, un acte d'amour et de froid, c'est les versets 10 et 12. Elle a fait une bonne action à mon égard, dit Jésus. La valeur de l'acte de Marie se manifeste dans son amour pour le Seigneur et par sa foi. De tous ceux qui l'écoutaient prédire sa mort, elle a été la seule à le prendre au sérieux et à agir en conséquence. Peut-être pensait-elle que les événements en lui permettraient pas de loindre après sa crucifixion. Et elle avait raison, car les femmes qui voulurent le faire trouvèrent le tombeau vide. Luc chapitre 24, versets 1 à 4 nous le précise. Jésus ne met pas ici en doute le besoin des pauvres. Au contraire, il a fait bien plus que Judas. Il y aura toujours des gens pour critiquer la manière dont un chrétien dispose de son argent. Ils ont pourtant tendance à oublier, et nous avons aussi tendance à oublier, que la plupart des œuvres sociales doivent leur existence à la vision et à la générosité de serviteurs du Seigneur, et non à celle de ses adversaires. Quatrième chose dans ce passage qui est intéressant, c'est le verset 13, une mémoire, un souvenir. Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Voici un commentateur de la Bible qui a dit sur ce passage, c'est un Américain, alors pardonnez-moi, je ne prononcerai pas son nom, mais il dit tout simplement cela, les actes et les titres de la grande majorité des rois, des empereurs et des généraux sont complètement oubliés aujourd'hui, comme s'ils étaient écrits dans le sable. Mais ce seul acte de gratitude d'une humble femme chrétienne est raconté aujourd'hui dans le monde entier et dans des centaines de langues différentes. La louange de l'homme ne dure que quelques jours. La louange de Christ dure à jamais. Quel est l'acte d'amour et de foi que vous avez fait pour Jésus cette année? L'acte d'amour et de foi doit durer toute une vie. Troisième et dernière étape, et dernier lieu, le Sanhédrin, versets 14 et verset 16, la trahison de Judas. Verset 15 nous dit « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai ?» L'évangile de Marc indique la joie avec laquelle les anciens regardaient cette occasion inespérée de prendre Jésus. Le prix de la transaction était équivalent à la valeur d'un esclave en Israël. Exode chapitre 21, verset 32 nous le dit. En fait, l'objet d'une prophétie même dans Zacharie chapitre 11, verset 12. Toutes les raisons de l'acte de Judas ne sont peut-être pas données, mais l'une d'elles était certainement l'amour de l'argent. Il ne manque pas d'exemple dans la Bible où l'appât du gain a été cause de terribles péchés. Quelques exemples. Souvenez-vous, la vente de Joseph et de ses frères, Genèse chapitre 37, nous parle qu'ils ont vendu leurs frères. La trahison de Samson dans le livre de Juges au chapitre 16 nous parle aussi que c'est pour une valeur d'argent. La fraude de Géasim, le serviteur d'Élie, dans 2 Rois, chapitre 5. Et enfin, dans le démarrage de l'Église primitive, la mort d'Ananias et de Saphira, avec leur histoire de terrain. L'avarice est un piège tragique, quelle que soit la somme convoitée. Les disciples ne connaissaient pas la vraie personnalité de Judas. Judas était un personnage tragique. Il fut appelé à être un disciple de Christ et il fut nommé apôtre par les autres. Marc chapitre 3 nous le précise. Il reçut la puissance de guérison, Matthieu chapitre 10, et il a peut-être utilisé cette puissance. La puissance d'accomplir des miracles n'est toutefois pas une preuve de salut, mais bien l'obéissance à la parole de Dieu. Malgré son appartenance au groupe des disciples et de sa fréquentation de Jésus, Judas n'était pas un croyant authentique. Quand Jésus lava les pieds des disciples, il affirma clairement que l'un d'eux, Judas, était pas si propre que cela dans son cœur. Comme beaucoup de prétendus chrétiens aujourd'hui, Judas faisait partie du groupe de croyants, mais il n'était pas l'un d'eux. Remarquez que chaque fois que Marie tenta de faire quelque chose pour Jésus, elle fut incomprise. Sa sœur Marthe ne la comprit pas quand elle s'assit aux pieds de Jésus pour l'entendre enseigner la parole. Judas ne la et les autres disciples ne la comprirent pas quand elle oignit Jésus. Ses amis et ses voisins ne la comprirent pas quand elle sortit à la rencontre de Jésus après la mort de Lazare. Jean chapitre 11 nous le dit. Quand nous donnons à Jésus-Christ la première place dans notre vie, nous pouvons nous attendre à devoir subir l'incompréhension et les critiques de ceux qui affirment le suivre. Pourquoi Judas suivra-t-il Jésus ? pendant 3 longues années, et pour devenir ensuite un traître. Une chose est certaine, Judas n'était pas une victime des circonstances, ni un instrument passif dans la main de la Providence. Il n'était pas non plus considéré comme un martyr. Bien que nous puissions jamais comprendre les motivations secrètes de Judas, nous savons que l'occasion d'être sauvé lui fut donnée à plusieurs reprises. Jésus l'a fréquemment averti, et même dans la chambre haute, à la dernière instant quand il lava les pieds. Judas a probablement vu en Jésus l'espoir d'une libération politique pour Israël. La vie de Judas est un avertissement pour ceux qui affirment servir Dieu, mais dont le cœur est éloigné de Dieu. C'est aussi un avertissement pour ceux qui gaspillent leur vie et les occasions qui leur sont offertes. Pourquoi ce gaspillage ? Demanda Judas, quand il vit le parfum précieux versé sur le corps de Jésus. Et pourtant Judas gaspilla les occasions offertes pour sa vie et pour son âme. Jésus l'appelle le fils de la perdition dans Jean chapitre 17 verset 12, ce qui signifie littéralement fils du gaspillage. Ma conclusion pour ce moment. Trois étapes, trois endroits différents. Jésus se préparait à la finalité de la vie ici-bas, finalité qui se terminera sur une croix. Chacun de nous doit décider de choisir de suivre Jésus ou de gaspiller sa vie. Quelle sera votre réponse ? Amen.